Vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 4h30 ici à Paris. Oui, 4h30, on a changé d'heure cette nuit.
Vincent Dublange.
Et 3h30 en temps universel. Afrique Matin, une demi-heure largement consacrée à l'actualité africaine. On commence bien sûr par le journal. C'est l'un des épicentres de la guerre fratricide entre généraux soudanais depuis un an et demi. L'état stratégique au sud de la capitale, d'Al Jazeera. Les combats font rage entre l'armée régulière et les paramilitaires soudanais. Ces derniers sont accusés de se venger sur les civils tués en masse. La main tendue au Mozambique du parti au pouvoir, le Frelimo, vainqueur des élections présidentielles et législatives du 9 octobre dernier, main tendue vers l'opposant numéro 1 après ce scrutin, Venancio Mondlane, qui appelle lui toujours à manifester contre les résultats officiels. Nous serons aux Comores dans 5 minutes. L'opposition demande de tout revoir dans le processus avant les scrutins législatifs et locaux du début d'année prochaine. Le gouvernement lui demande simplement de participer. On évoque aussi cette formation pour les femmes candidates aux municipales à Madagascar. La visite du chef de la diplomatie ukrainienne en Afrique du Sud, qui penche plutôt du côté de Moscou. Et enfin, la sanction de l'Union cycliste internationale contre le Tour du Faso, qui a invité justement une équipe russe. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemeti sont à nouveau accusés de violence contre les civils. Accusation de massacre commis dans plusieurs villages de l'état d'Al Jazeera, c'est juste au sud de la capitale Khartoum. L'accès au terrain est impossible, les communications sont coupées, donc il est difficile d'établir des bilans. Des sources locales évoquent des centaines de victimes. L'organisation Sudan's Doctors for Human Rights recense au moins 124 morts et de nombreux blessés. Les médecins du Soudan pour les droits humains qui réclament des enquêtes. Dr Rania Souleyman est membre de cette organisation non gouvernementale.
C'est un massacre, un énorme massacre. Les forces de soutien rapide ont encerclé les villages et ont commencé à tuer des civils désarmés. Ils tuent de sang-froid. La plupart des victimes sont des personnes âgées, des femmes, des enfants. Ils tuent les hommes sous les yeux de leurs enfants. Ils violent les femmes sous les yeux de leurs maris et de leurs pères. Ils humilient, ils bafouent la dignité humaine. Les forces de soutien rapide pillent également les maisons, quoi que vous possédiez, de l'or, de l'argent, ils emportent tout ce que vous avez. Je n'ai rien vu de pire depuis le début de la guerre avec de telles images de gens enterrés en masse. Nous avons besoin d'une enquête. Il faut que ces gens rendent des comptes.
Un propos recueilli par Florence Maurice. Selon le syndicat des médecins soudanais, le degré de violence est tel dans l'état d'Al Jazeera que les opérations de sauvetage pour venir en aide aux blessés sont devenues impossibles. Le syndicat des médecins appelle l'ONU à faire pression pour obtenir la mise en place de couloirs humanitaires vers des villages sûrs. Calme précaire ce matin au Mozambique. Il n'y a pas eu de nouvelles manifestations hier, mais la tension demeure latente puisque la contestation des résultats des scrutins généraux du 9 octobre est toujours aussi forte. Le parti au pouvoir, le Frelimo, tend toutefois désormais la main à l'opposition. En tout cas, au parti annoncé comme deuxième à la présidentielle et aux législatives, Podemos, celui de Venancio Mondlane, qui est crédité de 20% à la présidentielle, contre 71% pour Daniel Chapo du Frelimo. La porte-parole du Frelimo, l'ancienne guérilla indépendantiste au pouvoir depuis 1975, s'est dite ouverte à des discussions donc avec Venancio Mondlane, qui vit lui toujours caché. Ludmila Magouné n'a toutefois pas annoncé de date pour ces discussions. On l'écoute.
Notre candidat a déclaré qu'il est ouvert au dialogue, mais il est essentiel de rappeler que le processus de validation des résultats est toujours en cours. Ces résultats doivent d'abord être soumis au Conseil constitutionnel pour une décision finale. Lors des manifestations, nous avons constaté des pillages et des destructions de biens publics et privés, une situation qui, selon nous, inquiète l'ensemble des Mozambicains. Cela a même poussé certains à rester chez eux pour trouver un peu de tranquillité et à éviter de sortir.
Propos recueillis par Orfeu Lisboa, correspondant de RFI en langue portugaise au Mozambique. Venancio Mondlane, l'opposant, lui appelle à une nouvelle journée de mobilisation demain, lundi. Dans l'est de la République démocratique du Congo, malgré le cessez-le-feu décrété en août par le médiateur angolais, des combats se sont poursuivis hier entre les rebelles du M23 et les groupes armés pro-gouvernementaux dits Wazalendo dans le Nord Kivu. Il s'agit toujours de cette offensive dans le territoire de Walikale, au nord-ouest de Goma, la capitale provinciale. D'après des sources sécuritaires et administratives, les combattants du M23 ont pris le contrôle de plusieurs villages du groupement de Kisimba. Des centaines d'habitants, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés sous la pluie, se réfugier dans la localité voisine de Pinga, Pinga, qui est une importante base de l'armée congolaise, et cela pourrait être le prochain objectif militaire des rebelles soutenus par le Rwanda.
RFI à Moroni, 103 FM.
L'organisation des prochaines élections aux Comores fait débat. La plateforme Opposition Unie des Comores, OUC, rejette le cadre défini par les autorités de l'archipel. Le 12 janvier prochain, les électrices et électeurs des Comores sont convoqués pour des législatives nationales et des scrutins communaux. Mais dans un communiqué, la plateforme d'opposition critique le processus. L'OIC réclame une réforme de la commission électorale. Elle demande aussi que le rôle de l'armée dans les élections soit revu. Et enfin, les opposants au président Azali Assoumani demandent tout simplement un dialogue national sous parrainage international. Le gouvernement comorien, lui, dit à tous les partis politiques de prendre part aux élections. Abdallah Mzembaba.
L'opposition unie, regroupant plusieurs formations, est formelle. Tant que les conditions restent les mêmes, elle n'y prendra pas part. Mohamed Jafar Abbas, représentant d'Enjoint uni au sein de l'OIC.
En toute évidence, il n'est pas facile de combattre un système qui se base sur des élections biaisées, fraude électorale, donc qui se base aussi sur la répression. Donc pour y faire face, nous, on n'a qu'une seule démarche, qui est celle d'affronter, de ne pas se laisser abattre parce que là, la force, et qu'on sait très bien qu'elle va chercher à fabriquer les résultats de ces élections.
Pour le conseiller spécial du chef de l'État en charge des affaires politiques, les critiques de l'OIC n'entament rien la légitimité des élections à venir. Houmed Msaidié y voit même une opportunité pour l'opposition de démontrer sa représentativité.
L'opposition dans ce pays est plurielle. Nous appelons encore une fois à participer aux élections parce que c'est ainsi et ainsi seulement qu'on mesure la force des uns et des autres par rapport à la situation politique d'un pays.
À quelques mois des nouveaux scrutins, l'opposition estime que le pouvoir actuel cherche à répéter, je cite, un hold-up électoral similaire à celui de la présidentielle de janvier dernier, où le président Azali Assoumani avait été déclaré vainqueur dès le premier tour. Abdelham Zimbaba Moroni, RFI.
Des élections locales à Madagascar, ce sera un peu avant les Comores, le 11 décembre. Les candidats sont dans une écrasante majorité des hommes. Les femmes ne représentent que 6% des quelques 5400 têtes de liste qui briguent les fauteuils de maire à Mada. Parmi elles, beaucoup de novices. D'où cette formation pour une soixantaine de candidates cette semaine à Antananarive. Formation dispensée par le Conseil national des femmes de Madagascar à laquelle a assisté Guillaume Fabry.
Le pouvoir exercé par le maire.
Préparer un budget, prendre une décision par arrêté municipal ou maîtriser les codes de la communication politique. Pendant deux jours, 60 candidates venues de presque toutes les régions de Madagascar ont appris les bases de la gestion d'une commune. Marie-Rosalie Raelissou brigue un mandat de conseillère municipale à la mairie de Morundave, sur la côte ouest de la Grande Île.
Ce qui était très utile pour moi pendant cette formation, c'est plutôt la séparation des tâches entre les conseillers municipaux et les maires. Ça m'a donné des compétences en plus. Il faut que nous, les femmes, participe activement dans la vie publique afin de changer la donne.
Mais les barrières culturelles sont encore nombreuses, estime la présidente du Conseil national des femmes de Madagascar, Estelle Andjiamas. Alors cette formation vise aussi à donner confiance aux femmes candidates et à les convaincre qu'elles sont légitimes.
Dans la société malgache, la place des femmes a été toujours considérée comme inférieure à la place des hommes. Elles n'osent pas à se présenter candidate parce que ça va être quelqu'un qui décide la vie des communes, la vie des régions.
Pour faire éclore une nouvelle génération de femmes leaders à Madagascar, Estelle Andjiamas souhaite désormais que la loi impose la parité homme-femme à l'Assemblée nationale et dans les postes de décision de l'administration publique. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Après la Turquie et Oman, le nouveau chef de la diplomatie ukrainienne est en Afrique. Il était hier en Égypte. Andrei Sibiga s'est entretenu avec son homologue égyptien Bader Abdel Haati. Le ministre ukrainien a exposé le plan de Kiev pour mettre fin à la guerre avec la Russie, un exposé auquel l'Égypte a répondu en réaffirmant sa neutralité dans le conflit. Suite de la visite en Angola, puis en Afrique du Sud, le chef de la diplomatie ukrainienne devrait s'entretenir aujourd'hui et demain avec des représentants du secteur économique, avec la communauté ukrainienne locale, et puis bien sûr avec son homologue sud-africain. Et ce alors que la nation arc-en-ciel a récemment réaffirmé ses liens avec la Russie, Claire Bargelès.
Cette visite intervient seulement quelques jours après le déplacement du chef de l'État sud-africain à Kazan, en Russie, à l'occasion du sommet des BRICS. Cyril Ramaphosa y avait alors qualifié Moscou d'amis et d'alliés précieux, tandis que Vladimir Poutine s'était réjoui des sphères prometteuses en matière de coopération. Les échanges désormais avec la diplomatie ukrainienne sont donc très représentatifs de la politique de non-alignement défendue par l'Afrique du Sud depuis le début de la guerre et de sa volonté d'entretenir le dialogue avec les deux camps afin de rester une force de négociation. C'est d'ailleurs ce qui avait conduit Pretoria à mener une mission de paix africaine l'année dernière aux côtés des chefs d'État du Sénégal, de la Zambie et des Comores. Andrei Sibiya devrait insister auprès des officiels sud-africains sur le plan pour mettre fin à la guerre conçue par le président ukrainien et les échanges devraient également porter autour d'une possible future visite d'État en Afrique du Sud de Volodymyr Zelensky. Claire Barjolès, Johannesburg, RFI.
C'est un spectaculaire déclassement. Le célèbre Tour cycliste du Faso, dont la 35e édition se dispute actuellement, est retiré du calendrier de l'Union cycliste internationale. L'UCI prend cette sanction en raison de la participation à la course d'une équipe russe, équipe invitée par les organisateurs. Thomas de Saint-Léger.
Le règlement de l'Union cycliste internationale est clair, pas d'équipe russe ou bélarusse au départ d'une course UCI, mesure en vigueur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a plus de 2 ans et demi, difficile à ignorer. Et pourtant, le CSKA à Moscou, club historiquement lié à l'armée, est invité cette année par les organisateurs du 35e Tour du Faso. L'UCI est mise au fait avant le début de la course et demande alors le retrait immédiat de cette équipe. Un courrier officiel est adressé, il restera lettre morte et vendredi, au départ de la première étape, les maillots floqués Russian Army, armée russe en français, sont bien présents au cœur du peloton. Le soir même, l'Union cycliste internationale annonce sa décision de retirer l'épreuve de son programme. D'autres mesures disciplinaires pourraient suivre. Et même si la deuxième étape s'est disputée normalement hier, cette mise au banc du calendrier officiel pourrait avoir de lourdes conséquences pour le cyclisme burkinabé et sa course phare. Référence en Afrique, le Tour du Faso souffrait ces dernières années de la situation sécuritaire du pays. L'édition 2022 avait même dû être annulée. L'épreuve survivait depuis sur sa réputation et sur le maintien du label UCI, indispensable à l'attractivité d'une course. Son avenir aujourd'hui s'inscrit en pointillé.
Thomas de Saint-Léger du service des sports de Radio France Internationale Les Sports. C'est aussi la Confédération africaine de foot qui sanctionne la Libye. Défaite sur tapis vert, 3-0 donc face au Nigeria. L'affaire avait fait grand bruit, on en avait parlé sur RFI. Les Super Eagles devaient affronter la Libye à Benghazi le 15 octobre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Ils avaient quitté la Libye sans jouer pour protester contre leurs conditions d'accueil. D'après leur fédération, les joueurs, l'encadrement nigérian avait été retenu pendant 20 heures dans un aéroport désaffecté de l'est de la Libye. La Confédération africaine de foot a donc donné raison aux Nigérians. Match perdu 3-0 sur tapis vert pour la Libye et amende également pour la Fédération libyenne de 50 000 dollars. Le journal des sports complet, Christophe Diremjian, dans une heure tout pile.
Afrique Matin sur RFI. Vincent Dublange.
Un mot rapide du programme d'ici au prochain journal dans un peu moins de 20 minutes. Les têtes d'affiche de Denise Epoté, le livre international aussi, une journaliste américaine à la recherche de ses racines, de sa ville d'enfance qui vote Trump, contrairement à Ariel. Et puis du cinéma avec un film qui commence comme une comédie romantique avant un virage à 180 degrés, pardon, 360 ça fait beaucoup, à 180 degrés. Et c'est Sophie Torlotin du service culture qui nous en parle. Elle a rencontré l'équipe du film Danora dans 10 minutes. Rendez-vous sur RFI. Et avant ça, RFI reportage au Tchad. L'importation, la fabrication, la vente et surtout la consommation des alcools frelatés sont interdites dans le pays d'Afrique centrale. Ça fait 2 ans, mais ça n'empêche pas certains jeunes tchadiens d'en consommer et pas avec modération. L'alcool, on le sait, de manière générale, est mauvais pour la santé quand on en consomme régulièrement et en quantités importantes. Mais c'est encore pire, évidemment, quand l'alcool est frelaté, coupé avec des produits plus dangereux. RFI reportage Olivier Monodi.
Au maquis d'Oulbarit à Moursal, dans le 6e arrondissement de N'Djamena, ce samedi, une dizaine de jeunes consomment de l'alcool en sachet.
Chaque jour, je bois. Si je ne bois pas, je ne suis pas tranquille, mon frère. Prends 3, 4 sachets, même là, ça ne fait rien.
C'est depuis le matin qu'ils sont en train de consommer ces alcools. Peut-être un carton déjà, et pire, sans encore manger. A lancé un passant en s'inquiétant. Vendu sous différentes appellations, Guérec, Petit ou Grand Marteau, Leader, Iscor, Kitoko, Tire, Lion d'Or, Fairplay, Victago, Réseau, Charge Rapide, etc. Ces boissons affichent un taux d'alcool qui varie entre 43 à 45%. Elles se vendent entre 50 à 100 francs CFA l'unité, soit 7 à 15 centimes d'euros. Mais leur consommation n'est pas sans conséquences sanitaires, explique Dr Dila Manassé.
Des cas de mort subite sont enregistrés, des comportements à risque et conduits à des maladies cardiovasculaire, gastro-intestinal, les troubles neuropsychologiques, voire l'accélération du processus de vieillissement. Parce que c'est de l'alcool falsifié qui contient de l'éthanol industriel et d'autres agents de conservation qui ne sont pas alimentaires. La consommation diminue l'espérance de vie à plus d'une année.
Sous couvert d'anonymat, cet homme dit avoir perdu son cousin diplômé le mois dernier en raison de la consommation abusive d'alcool frilaté.
C'est vrai, on ne programme pas la mort, mais pour mon cousin, il avait exagéré. Déjà à 6 heures, il est sous. Pas de petit déjeuner chez lui. Parfois, on dirait qu'il a lavé la figure avec ça. On n'accuse personne parce qu'on était fatigué de lui parler.
Pour la Croix bleue tchadienne qui lutte contre la consommation des alcools, beaucoup reste à faire du côté de l'État en termes de répression. Ngonba Tao Anatole est le vice-président de l'organisation.
L'État a fait un effort pour prendre un décret, le décret 2835, en 2022. Ce décret souffre. Vu le méfait de cet alcool, dans la jeunesse surtout, l'État doit agir vite. Il faut que la police sanitaire soit opérationnalisée pour pouvoir, n'est-ce pas, faire son travail.
Selon l'OMS, l'alcool frilaté serait responsable de la mort de plus de 100 000 personnes chaque année. Au Tchad, malgré les démarches, il est difficile d'avoir les statistiques sur ces consommations, faute d'études dans le domaine. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté dans une minute. Avant ça, on brosse à grands traits l'actualité internationale de ce dimanche 27 octobre 2024. 4h46 à Paris, hein, on a changé d'heure cette nuit, je vous le rappelle. L'Iran affirme son droit à se défendre après les frappes israéliennes hier matin tôt contre des sites militaires en Iran. Téhéran fait état de dégâts limités, 4 militaires iraniens tués. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirme que les installations nucléaires iraniennes n'ont pas été touchées. Sur le front libanais, l'armée israélienne fait état cette nuit de 80 projectiles tirés par le Hezbollah. Elle poursuit de son côté ses frappes sur le sud du Liban et également dans la banlieue sud de Beyrouth. Sur un plan diplomatique maintenant, concernant la guerre à Gaza, de nouvelles négociations attendues ce dimanche à Doha entre Israéliens, Américains et Qatariens pour évoquer la possibilité d'une trêve à Gaza associée à une libération d'otages israéliens enlevés le 7 octobre 2023 par le mouvement armé palestinien Hamas. En Europe, le parti au pouvoir en Géorgie revendique sa victoire aux législatives d'hier, revendication contestée. Le parti Rêve géorgien est en tête avec 53% des voix, largement devant une coalition de 4 mouvements pro-européens qui recueillent ensemble un total de 38% des voix. Mais ce sont des résultats officiels, certes, mais partiels, portant sur un peu plus de 70% des bureaux de vote. « Nous ne reconnaissons pas les résultats faussés d'élections volées », déclare la chef de l'un des 4 partis de la coalition d'opposition pro-européenne. Et puis on vote aussi au Japon aujourd'hui, élections législatives anticipées. Les bureaux de vote sont ouverts. On va largement en parler ce matin sur Radio France Internationale. Prochain journal dans 12 minutes. Et comme promis à 3h48 en temps universel, les têtes d'affiche de Denise Epoté de TV5 Monde, comme chaque dimanche sur RFI, maintenant à 7h06. Nous sommes en Algérie ce matin et en République démocratique du Congo. Elle répond à Nemo en pisse.
Les têtes d'affiche de Denise Epoté. Bonjour Denise.
Bonjour Nemo.
Votre première tête d'affiche est originaire d'Algérie, diplômée de la Faculté des sciences économiques et gestion de la Faculté d'Alger. Asma Lamesh Menjeli possède une licence en finance en 2020, en pleine crise sanitaire. Elle cofonde avec son mari Straplife, une start-up dans le secteur de l'e-santé pour accompagner les personnes vulnérables dans la prise de leur traitement.
Transformer les défis du quotidien en opportunités, c'est ce qui motive Asma Lamesh Menjeli. Conçue durant la crise du Covid, période durant laquelle les seniors étaient isolés de leurs proches aidants, la solution Straplife apporte un soutien essentiel pour le suivi des traitements médicaux. Elle permet non seulement de rappeler les prises de médicaments, mais aussi de fournir une vue d'ensemble des soins et des problématiques du patient avec des accès partagés pour les aidants et les soignants. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application peut également anticiper et prévenir les interactions médicamenteuses pour les personnes âgées ou vulnérables. D'où le nom Straplife pour attacher à la vie. Pour les non-voyants, Asma Lamesh Menjeli et son équipe ont mis au point StyCare a collé sur les boîtes de médicaments. L'autocollant utilise un système de forme géométrique pour permettre aux personnes malvoyantes, malentendantes ou encore peu ou pas alphabétisées de suivre correctement leurs prescriptions médicales. Autre innovation de la start-up, LifeCard, une carte médicale d'urgence qui contient un QR code donnant accès aux premiers soins d'urgence. Stripe Life a figuré parmi les 5 finalistes de l'édition 2023 de Silver Echo à Cannes. Lors de la semaine L'Afrique des solutions, tenue à Paris fin septembre, l'innovation a remporté la médaille du mérite.
Votre seconde tête d'affiche, Denise, est franco-congolaise, interprète de conférences formées aux États-Unis et à Londres. Gaëlle Matondo a mis au point en 2022 YOMS, une application pour l'apprentissage des langues africaines dans le but de rendre plus inclusif le secteur des EdTech.
YOMS est un clin d'œil à ses origines congolaises, où vivent les Yombé. L'application vient combler un manque, car jusqu'ici, seules les langues latines étaient présentes. Depuis un téléphone mobile ou un ordinateur, l'application propose 6 langues africaines, le Lingala, le Wolof, le Swahili, le Lari, le Bambara et le Yoruba. Le Lingala occupe la première place de l'offre linguistique qui, à terme, devrait en comprendre 9. Il suffit de 30 minutes d'apprentissage par jour. Un apprentissage ludique qui, selon Gaëlle Matondo, permet de démocratiser l'apprentissage des langues africaines grâce au numérique en répondant aux besoins de ce marché en pleine émergence. Pour cette innovation, elle a été lauréate de la French Tech Tremplin Promo 2022. La même année, elle a été élue entrepreneur féminin France Active pour la région Centre-Val-de-Loire. Et en 2023, elle figurait parmi les femmes entrepreneurs Orange. Au mois de mai, au sein de la délégation française, Gaëlle Matondo a participé au e-learning Africa à Kigali.
C'était les têtes d'affiche de Denise Epoté. Merci Denise, vous les retrouvez sur l'application RFI Pure Radio.
Merci beaucoup Nemo Pissa. Feuillet, le livre international de la semaine, à 10 jours de la présidentielle américaine, une statistique surprenante. Les Américains vivant en zone rurale meurent désormais en moyenne 5 ans plus tôt que les générations précédentes. Monica Potts est journaliste politique pour le média 538. Elle a tenté de comprendre pourquoi. Elle est retournée dans sa ville d'origine, Clinton. C'est dans l'Arkansas, au centre des États-Unis. Elle a exploré sa propre histoire, mais aussi celle de son amie d'enfance. Et elle en parle avec Marie Normand.
Bonjour Monica Potts.
Hello.
Comment décririez-vous Clinton, cette ville de l'Arkansas où vous avez grandi et qui est au cœur de votre livre ?
C'est une ville incroyablement petite. Il n'y a rien autour de vous. Il y a votre petite ville et des arbres, des montagnes et des rivières. Le taux de pauvreté se situe autour de 15-20% depuis ma naissance. Certaines personnes s'en sortent bien, mais c'est un endroit où beaucoup de gens ont toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Et le revenu médian est encore bien inférieur à la moyenne nationale. C'est un État plus pauvre que le reste du pays.
Alors vous comparez votre trajectoire à celle de Darcy, votre amie d'enfance. À l'époque, ce qui vous rapproche, c'est le désir irrépressible de quitter justement cette ville de Clinton.
Oui, nous avions le sentiment que cette ville était trop petite pour nos ambitions et qu'elle ne correspondait pas vraiment à nos désirs à bien des égards. Les gens écoutent de la country, ils veulent rester là-bas et fonder une famille. Nous, nous voulions partir à l'aventure. Nous voulions écouter la musique alternative des années 90 comme Nirvana. Nous avions ce grand atlas et on imaginait ce que ça ferait de vivre là-bas.
Vous allez réussir à quitter Clinton, mais pas votre ami Darcy qui va multiplier les petits boulots, perdre pied, devenir toxicomane, sans domicile fixe. Vous essayez de comprendre pourquoi dans ce livre. Vous insistez d'abord sur le poids de la religion omniprésente en Arkansas. De quelle façon cela influence-t-il la façon dont les filles grandissent en Arkansas ?
Oui, c'est une religion chrétienne évangélique très conservatrice que l'on retrouve partout. Par exemple, à Clinton, l'église baptiste du Sud institue une hiérarchie très explicite. Ce sont les hommes qui commandent, il faut les écouter et ils doivent écouter Dieu. Et vous devez vivre votre vie d'une certaine manière, adhérer à un certain code moral. On nous a vraiment appris à nous fixer des objectifs et à planifier notre avenir pour être une bonne épouse et une bonne mère. Le premier emploi et tout le reste était vraiment secondaire, ce qui influençait nos propres ambitions. En mathématiques et en sciences, par exemple, nous exigeons des femmes qu'elles soient parfaites. Et au fur et à mesure qu'elles avancent dans les études, la vie commence à peser sur les filles d'une manière différente de celle des garçons. Cela les amène à revoir leurs ambitions à la baisse et à être plus réalistes. Peu à peu, on voit les filles décrocher, faire un peu moins d'efforts, et les mêmes schémas se répètent. Cela devient alors un problème social, et je pense que le poids de l'Église y contribue.
Alors d'autres facteurs expliquent les difficultés des femmes en zone rurale et le fait qu'elles meurent plus jeunes qu'avant. Vous parlez notamment de la drogue, de la meth, disponible partout. Derrière cette description très sombre de votre ville d'origine, vous tentez de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Est-ce que vous avez trouvé une réponse claire à cette question ?
Je n'ai pas trouvé de réponse claire et simple à cette question. Ce que je pense avoir démontré, c'est qu'il y a donc 1 million de petits endroits où l'on peut creuser dans l'histoire d'une personne pour être capable de dire « ça, c'était un facteur important, ça, c'était un tournant ». Et lorsque nous les additionnons, nous pouvons comprendre pourquoi nous avons construit cette vie.
L'Arkansas qui vote historiquement républicain et qui votera majoritairement Trump, on le sait, le 5 novembre, comment vous l'expliquez ?
Cela s'explique en partie par le fait que les États-Unis sont en pleine mutation. Nous sommes à un moment où, sur le plan économique, de nombreuses personnes sont laissées pour compte. Et sur le plan culturel, les États-Unis sont en train de changer aussi. Nous approchons d'un moment où, dans les prochaines décennies, la majorité des Américains ne s'identifieront plus comme blancs, ce qui a constitué jusqu'ici la majorité de la population américaine. Il existe donc un nombre important de personnes, pour la plupart âgées, pour la plupart vivant en zone rurale et pour la plupart blanches, qui fantasment cette Amérique passée. Ils sont nostalgiques. Trump a su mobiliser à son avantage cette forme de racisme, de nativisme, de xénophobie. Il dit « Je vais empêcher ce pays de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je vais le ramener à ce que vous pensez qu'il était ». Cette rhétorique est très puissante et elle surpasse tout ce que Trump a bien pu faire en tant que président. Je pense que les gens votent pour une idée qui leur plaît lorsqu'ils votent Trump. Et cela est un défi pour nous parce que, vous savez, nous sommes très fiers de notre démocratie. Beaucoup d'experts sont aujourd'hui extrêmement inquiets pour son avenir.
Merci Monica Potts d'avoir été avec nous sur RFI.
Merci Marie Normand du service international de Radio France Internationale. Et à 4 minutes d'un nouveau journal sur RFI, RFI Culture, c'est le film qui a décroché la Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Anora sort mercredi prochain en salle, présenté comme un Pretty Woman moderne, déjanté. Ce film de Sean Baker suit le parcours d'une stripteaseuse qui pense échapper à sa condition en se mariant avec un jeune russe richissime. Sauf que rien ne va se passer comme prévu, Sophie Torlotin.
Anora survit comme entraîneuse dans un bar à hôtesse de New York. La vie de cette Cendrillon des temps modernes bascule quand elle fait la connaissance du fils d'un oligarque russe.
Tu accepterais d'être exclusivement avec moi ?
J'en veux 15. Cash et payé d'avance.
Pour ce rôle, Mikey Madison a travaillé la langue russe et le dialecte ouzbek et bien plus encore.
J'ai rencontré plusieurs jeunes femmes merveilleuses consultantes sur le film. Elles m'ont fourni beaucoup de détails concrets sur le métier de stripteaseuse. J'ai aussi bénéficié d'une préparation physique. J'ai pratiqué la pole dance, la danse érotique, le twerk, tout ce que l'on voit dans ces clubs. Je me suis entraînée pendant plusieurs mois. J'ai même installé une barre de pole dance dans mon salon de façon à ce qu'à l'image, on ne voit pas l'effort.
Le film commence comme un conte de fées trivial et pétaradant, mais se transforme en cours de route.
Pendant 2 semaines, je te surveille pas et tu te maries avec une prostituée.
Car les riches parents russes ne voient pas d'un bon œil le mariage de leur rejeton avec une stripteaseuse. Ils envoient des hommes de main pour faire annuler l'union. Mais entre-temps, Ivan a disparu. Et voici les gros bras flanqués d'Anora le recherchant dans les rues new-yorkaises.
On ne va pas divorcer !
Le réalisateur Sean Baker, qui explore depuis plusieurs années le milieu des travailleurs du sexe aux États-Unis, entraîne les spectateurs dans un grand huit émotionnel.
Les 3 premiers quarts d'heure, les spectateurs pensent voir une comédie romantique dans l'univers des super riches. Et puis ensuite, ils vont découvrir la réalité pendant l'heure et demie qui suit. Cela m'intéressait d'installer des attentes et puis de les tailler en pièces. Je propose au public différents genres en espérant qu'ils me suivent dans ce projet.
Vous
venez pas me dire que vous êtes fait tabasser par une gamine ?
Non !
Mikey Madison incarne une Anora surprenante, bien décidée à ne pas se laisser faire.
Je voulais qu'elle soit la plus authentique possible. Personne n'est tout d'un bloc, seulement une battante ou une victime. Elle est quelque part entre les deux. J'aime qu'elle se batte. Et c'est drôle, mais elle est aussi vulnérable.
Vous êtes une bande
de cinglés !
S'il te plaît !
La Palme d'Or consacre fort à propos ce réjouissant film de la scène indépendante américaine qui subsiste à l'écart d'Hollywood et des franchises de super-héros.
Merci beaucoup Sophie Torlotin. Fin de cette demi-heure africaine, la première. Dans une demi-heure, vous retrouvez Xavier Besson pour la seconde. On aura notamment les dernières précisions sur les combats dans le territoire de Walikale, dans le Nord Kivu, entre M23 et Ouazalendo. Également l'inauguration hier de l'aéroport international de Kisangani, rénové par Félix Tshisekedi, et puis cette prospection pétrolière au large de la Somalie par la Turquie. Dans une minute, Juliette Pietraszewski.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Après Radio Foot International toute la semaine, Mondial Sport le week-end. 50 minutes ensemble pour partir à la découverte de nombreuses disciplines aux quatre coins du globe. Invités, reportages, débats, discussions, découvertes. Rendez-vous tous les samedis et tous les dimanches sur la radio du monde à 16h10, temps universel.
C'est sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI Pure Radio. Tout à l'heure sur RFI, idée Pierre-Edouard Deldic.
Rendez-vous avec la revue Esprit pour parler du livre, thème du dossier de notre revue partenaire avec sa directrice Anne-Lorraine Bujon.
Le livre est face à des défis considérables aujourd'hui dans notre monde numérique, mais en même temps, il fait preuve de résilience et ce qui est au cœur de la fabrication d'un livre sans doute perdure.
Idée proposée par Pierre-Edouard Deldic tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.